Chapitre 48. Emma et Romain sont aussi stressés que moi. À mon retour, je les ai réunis dans la chambre. La décision s'est imposée. Nous allions surprendre notre père dans le bar, en espérant que ce serait suffisant pour qu'il prenne conscience de la gravité de ses actes. L'alcool est un bourreau. Je ne veux pas que mon papa fasse partie de ses victimes.
On va chercher des sardines pour ce soir,
lance Romain dans le jardin.
Vous pouvez nous garder les petits ?
Demande Emma. Jérôme et Nona acquiescent pendant que Colombe fait semblant de ne pas entendre. Ma mère n'est pas encore rentrée de sa traditionnelle journée de plage. Cette fois, nous partons à pied. Trouver une place pour la voiture en pleine journée sera impossible. Emma a l'air soucieuse. Il va nous en vouloir. Il va avoir terriblement honte.
Putain, il a failli crever !
Rage Romain.
J'espère bien qu'il va avoir honte. Popo, t'es pas d'accord ?
Si, mais je pense qu'il va avoir besoin d'aide. Le reste du trajet se fait dans le silence. Je repense à toutes ces années durant lesquelles mon père a disparu dans une bouteille. J'avais une dizaine d'années quand j'ai commencé à me rendre compte que quelque chose n'était pas normal. Ma mère nous protégeait, elle faisait son possible pour que nous ne le voyions pas. Mais quand elle n'était pas là, j'étais celle qui empêchait les deux petits de sortir trop vite de l'enfance. Ils se cachaient pour boire, comme si les effets n'étaient pas visibles. C'était facile de trouver la bouteille du jour. Il suffisait de repérer où il allait. Je me souviens d'une fois, ma mère travaillait, on jouait tous ensemble au Monopoly. Il n'arrêtait pas de se rendre aux toilettes. À chaque fois qu'il en sortait, il était un peu plus ivre. J'y suis allée à mon tour, j'ai ouvert le placard où on rangeait le papier et les produits nettoyants. Elle se dressait là, fière, arrogante. Je l'ai vidée dans la cuvette pour qu'elle arrête de nous narguer. Le lendemain, c'était dans le garage, puis dans la panière à linge sale, et quelques gouttes dans le café. Il s'endormait l'esprit, il s'engourdissait les sentiments. Il voulait sans doute oublier des choses que nous étions trop jeunes pour connaître. Il ne se contentait pas d'être grisé, il fallait qu'il soit déchiré. Les yeux qui peinent à rester ouverts, la bouche qui ne sait plus articuler, le corps qui tangue et le cerveau qui rame. Je le revois, assis à côté de la chaîne dans laquelle il insérait une cassette de vieilles chansons mélancoliques, les épaules basses, la tête pendante. L'ivresse, c'est l'endroit où vont ceux qui ne veulent être nulle part. C'est l'endroit où on peut mourir un peu, mais pas tout à fait. C'est violent pour un enfant de voir son père se mettre volontairement dans cet état. J'ai dans la tête des images que j'aurais aimé ne pas garder. Je ne me souviens plus de la fête d'anniversaire de mes 10 ans, mais je revois très précisément mon père essayer d'allumer une cigarette en la mettant à l'envers dans sa bouche et en tenant le briquet allumé à 20 cm de la tige. J'ai oublié le jour où j'ai reçu une médaille de natation, mais je le revois m'emmener dans un bar sur le porte-bagages de sa mobylette et me faire promettre de n'en parler à personne. Je ne me rappelle pas comment j'ai su que j'avais eu mon bac, mais je sens encore le poids de mon père sur mon épaule quand je l'aidais à rentrer dans la maison. Je ne sais plus quels sont les derniers mots que m'a dit mon grand-père adoré, mais je n'oublierai jamais le corps de mon père étendu dans le couloir, qui ne répond pas à mes cris. Je suis fière de lui. Il a réussi à combattre ce monstre, il l'a mis à terre et lui a coupé la tête. Pourvu que ce ne soit pas comme la queue des lézards. Nous arrivons devant le bar. Je regarde ma sœur et mon frère. Ils ont 14 et 9 ans et je dois les protéger. J'entre la première. Il y a plusieurs familles attablées autour de crêpes ou de coupes glacées. Il y a des hommes assis au comptoir. Il y a les clients qui achètent leurs cigarettes. Il y a le grand barbu derrière le bar qui nous observe. Il n'y a pas mon père.
Il n'est pas là,
dit Emma avec soulagement. Attends, on va demander. Je m'approche du bar et m'adresse au grand barbu.
Bonjour monsieur, on cherche notre père, on l'a vu entrer dans votre bar plusieurs fois. Il n'est pas très grand, 1m73, les cheveux gris, un peu dégarnis, il porte un bermuda beige et un t-shirt noir.
Le type me regarde comme si je parlais moldave.
Attendez, je vais vous montrer une photo,
intervient mon frère. Il sort son téléphone et fait défiler les images jusqu'à ce qu'il trouve la bonne. Il montre l'écran au barbu.
Tenez, c'est lui.
C'est une photo au bord de la piscine. Mon père porte des lunettes de soleil et une casquette. Je secoue la tête.
Ah bah oui, ça va l'aider. T'en as pas une avec une cagoule plutôt ?
Tous ceux qui sont assis au bar sont tournés vers nous. Nous sommes l'attraction du jour.
Je vois qui c'est, affirme le barman.
Si l'espoir était visible, on le verrait s'envoler. C'est donc vrai.
Qui me dit que vous êtes ses enfants ?
On n'a pas des tronches d'inspecteur du FBI ici ?
Ricane mon frère.
Vous pouvez nous aider ou non ?
L'homme nous scrute pendant quelques secondes en lissant ses longs cheveux de la main, puis désigne l'escalier au fond de la pièce.
Il est en haut à l'hôtel.
Pardon ?
S'écrie ma sœur.
Qu'est-ce qu'il fait à l'hôtel ?
Des rires gras s'élèvent autour de nous. Des Miss Roussos soupirent.
Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en plein après-midi avec une femme dans un hôtel ?
5 juin 2011. La sage-femme nous avait prévenus. Notre fils allait bientôt arriver. Les petits vêtements étaient lavés, repassés et rangés. La chambre était décorée. Nous avions passé des jours à peindre des collines et des animaux sur les murs, à accrocher les cadres et les mobiles, à préparer le lit, à essayer de caser tous les doudous. La valise pour la maternité était bouclée. Nous étions prêts. Nous avions hâte. Il était 21h. J'étais en train de manger une glace au chocolat quand une douleur m'a déchiré le bas-ventre. Nous avions eu une fausse alerte quelques jours auparavant. Nous avons donc attendu de voir si cela se reproduisait. 20 minutes plus tard, il n'y avait plus de doute. J'ai hurlé «
C'est le moment, on y va !»
J'avais la voix presque assurée du chaton qui veut imiter le lion.
« Je peux me doucher avant de partir ? »
as-tu demandé. Je n'ai pas eu besoin de répondre. Le regard du chaton t'a suffi. Durant le trajet jusqu'à la maternité, tu n'as pas allumé la radio. À intervalles réguliers de plus en plus rapprochés, je me prenais pour la Castafiore. À chaque bosse, à chaque dos d'âne, je grognais. Il t'en aurait fallu davantage pour abandonner ton sourire, Béa.
« C'est pour accoucher ?»
a demandé la sage-femme de l'accueil. J'ai rugi. Il se peut que j'ai eu quelques difficultés à gérer la douleur. On nous a installés dans un box pour vérifier s'il ne s'agissait pas encore d'une fausse alerte. Ce n'était pas le cas. Ils nous ont transférés en salle d'accouchement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. « Je vais mourir !» ai-je soufflé pendant qu'ils installaient le monitoring autour de mon ventre. Tu m'as caressé la tête doucement.
« Mais non, tu ne vas pas mourir. »«
Toi, en revanche, c'est moins sûr si tu me contredis encore. »
Tu as ri. Moi aussi, juste avant qu'une contraction me plie en deux. J'ai demandé la péridurale à la sage-femme. Elle a répondu qu'il fallait encore attendre un peu. Je n'étais pas assez dilatée. J'ai eu envie de lui dilater la tronche, mais je sais me tenir. J'ai essayé de respirer avec les techniques que nous avions apprises durant les cours de préparation à l'accouchement, tout en chassant les images qui m'assaillaient. La taille de la tête d'un bébé, la taille de mon vagin, un carré qui essaye d'entrer dans un rond, du sang. Ma mère avait fait une hémorragie lors de la naissance de Romain. Elle avait failli mourir. Les médecins avaient annoncé à mon père qu'elle ne passerait sans doute pas la nuit. J'avais 7 ans, et un événement censé être joyeux se transformait en cauchemar. Quand elle était rentrée, après une longue hospitalisation, j'avais pris la décision de ne jamais prendre ce risque. Et là, un bébé utilisait sa tête comme un bélier contre la porte de mon intimité. 2 heures que nous étions là. J'avais faim, j'avais soif, j'avais mal, mais je n'avais pas le droit de manger, je n'avais pas le droit de boire, je n'avais pas droit à la péridurale. Nous alternions entre attente, marche dans les couloirs pour aider le col à s'ouvrir, discussion autour de notre vie à trois, gémissement de douleur. À intervalles réguliers, quelqu'un venait vérifier si le travail avait avancé. Une fois, ils sont venus à trois, journée portes ouvertes de mon vagin. Tu n'avais pas les contractions, mais tu partageais mon anxiété. Tu allais devenir père. Depuis plusieurs mois, tu lisais tous les livres traitant du sujet. Tu regardais des émissions, tu prenais conseil auprès de tes copains qui étaient déjà passés par là. C'était attendrissant de te voir mettre toutes les chances de ton côté pour faire au mieux.
« J'appelle l'anesthésiste, on va pouvoir poser la péridurale », a dit la sage-femme.
Je crois que je lui ai répondu que je l'aimais. Au bout d'une heure, la douleur avait presque disparu. Grâce au monitoring, le cœur de notre enfant résonnait dans la pièce. C'était l'un de ces moments magiques qui restent à jamais dans nos mémoires. Je t'ai pris la main et j'ai levé les yeux vers toi. Je t'aime.
Moi aussi, je t'aime.
Nos souvenirs seraient parfaits. Tu es l'homme de ma vie. Tu as hoché la tête. Je suis vraiment heureuse de vivre ça avec toi. Tu es l'homme le plus merveilleux au monde. Tu as souri et tu m'as embrassée. Puis tu t'es assis dans le fauteuil au pied du lit. Tu as ouvert ton sac à dos et en as sorti des biscuits, une bouteille de coca et ta console de jeu portable.
Ça te dérange si je mange un peu? J'en peux plus.
Je me suis demandé si une procédure de divorce entacherait beaucoup nos souvenirs. Je n'ai pas eu le temps de savoir, la sage-femme est entrée dans la pièce pour évaluer l'évolution du travail. Tu as posé ta console et le gâteau et tu es venue à mes côtés. Nous sommes restés là, main dans la main, pendant plus d'une heure, à savourer ce moment que nous avions tant imaginé. Ce n'était pas si terrible, finalement, je me suis dit. Et puis j'ai senti que quelque chose se passait en bas de mon ventre.
Ce n'était pas si terrible, la bonne blague.